On est dans une époque de conneries décomplexées. C'est-à-dire on s'en fout, hein. Le vrai con, si tu lui lèves la semelle et puis ça part en arrosage automatique. Allez, vas-y, je t'arrose de ma connerie. Non, mais il y a des fois des personnes, si tu veux. Il y a des cons, tu veux leur parler, il faut mettre des lunettes de soudure, hein, ça gicle. Ça peut te fêler une paupière, un vrai con, hein, c'est un truc. Et pourquoi il y a autant de cons? Je me mets dans l'eau, parce que maintenant, il faut parler. Voilà, faut l'ouvrir, donc forcément, ça multiplie le risque de dire des conneries. Hein. Tu fermes la bouche, la bouche fermée empêche la connerie de passer. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Tu vois, maintenant, faut l'ouvrir. Bah, le chef à l'usine, tu vois, ça fait 20 ans qu'il fait son briefing le matin. Tu vois, il est devant 12 gus et nana, le mec, il connaît son briefing par cœur, ça fait 20 ans. Il dit, toi, 8h20, tu vas poste 1. À 8h40, tu as poste 2, toi à 9h, tu as poste 3. Et puis on lui a dit, mets de l'eau dans ton vin, chef, demande si quelqu'un a des questions. Il n'y a pas de questions à poser, mais on s'en fout. Voilà, on ne sait jamais, comme ça, ça fait... Les gens se sentent plus à l'aise, ils peuvent parler, parce qu'il faut parler, il faut verbaliser. Donc maintenant, le chef, il dit, bon, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Eh bien, il y a 5-6 ans, il n'y avait pas de questions, maintenant, oui, t'as...
Oui, moi, Églantine, voilà, oui. Je voudrais savoir, chef, pourquoi je dois partir poste 3 à 8h40 alors que j'en ai parlé avec Jean-Pierre Acadéra qui l'autre jour ont embauché à 8h20 poste 2, je trouverais beaucoup plus logique pour...
Mais ta gueule! Ta gueule! Mais ta gueule! Déjà, on prend pas la parole hein, devant tout le monde pour évoquer son cas personnel, ça s'appelle la politesse. Déjà, primo, on fait pas chier les gens. Et puis si t'es pas contente, hein, tu prends le chef sur le parking, tu te fais expliquer, et si t'as toujours pas compris, tu te fous en mi-temps thérapeutique et t'arrêtes de nous casser les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette manie de l'ouvrir comme ça? Je descends un ascenseur en jouant une boîte, c'est chiant les ascenseurs. On est en des sardines, là on est mal éclairé, on sait pas quoi se dire. J'étais entre un mec et une nana, ils avaient l'air de se connaître, deux collègues, c'était comme ça. Puis l'autre elle lui fait, Hugues, tu pars un peu pour les vacances de février? L'autre il dit oui. Écoute la réponse de Hugues. On va dans la famille de ma femme sur Grenoble, et s'il neige un peu, on fera skier les gamins. C'est magnifique. Le mec il a dit où, quand, comment, avec qui, météo A, météo B, les liens avec la famille, la région. Tout ça en 8 secondes. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la scène, j'aurais pas été capable de répondre comme lui. Tu fermes ta gueule quand Hugues parle. Tu baisses les yeux. L'autre, il a atteint le chiffre pi de la réponse, c'est la perfection. Tu fermes ta grande gueule. Eh ben non, l'autre, il fallait qu'elle nous tartine encore. C'est l'ascenseur de Riette, elle en avait encore partout. Et vas-y. Eh, tu remarqueras, Hugues, niveau vacances, mieux vaut partir que revenir. Mais ta gueule! Ta gueule! Sur tout, t'as des forums sur tout, s'exprime toute la nuit sur les forums, forums sur les machines à café Tassimo, t'as des forums sur la taille des caches, des boîtiers, des appareils photo Canon. Il est précis ce forum, hein. Donc si tu veux, t'as un gars, et là, alors moi j'ai le 7D, le Canon 7D, si tu veux, le cache, il est un petit peu plus rectangulaire, il est comme ça, tu vois. Alors en dessous, t'as un gars, ah bon, parce que moi j'ai le 5D, il est comme ça, tu vois, le 5D. C'est marrant parce qu'à l'époque, ils faisaient des caches plus carrés, le 5D, ils l'ont fait... Ouais, parce que moi, j'ai le 7D, tu vois. Il est plus rectangulaire. Ah ouais, parce que moi, j'ai le 5D, tu vois. C'est bien, on progresse intellectuellement, c'est agréable, là, on sent l'air frais. T'as des forums de croquettes pour chiens. Alors, t'as 2h du matin, alors t'as une bonne femme qui prend... Quand tu prends la parole à 2h du matin sur un forum frolique, c'est que tout n'est pas très très en place, hein, quand même, hein, on peut se le dire. Hein? C'est comme des bouteilles de vin dans un coffre, hein, ça roule. Hein? Hein? On va stabiliser un peu tout ça, parce que... Ah, t'es une bonne femme, c'est pas qui c'est, 2h du matin.
Moi, je trouve que les froliques sont beaucoup moins croquantes que les Royal Canin.
Mais tu les bouffes, tu les gobes, tu les...
Facile. Et je me suis demandé si les croquettes étaient plus molles du fait des ondes des antennes relais ou des élites pédosatanistes qui gèrent l'économie de marché,
d'accord, donc j'ai compris. Donc là, on sort du champ des croquettes, d'accord. Donc là, j'ai discuté un peu avec la dame, hein, on a tiré la pelote de laine, tout est venu très très vite. Hein. Bill Gates nous met des puces 5G dans le cul pendant qu'on dort. Hein. Oui, moi, il est venu... Ouais, lundi, moi, il m'a fait ça lundi, il est venu... Elvis n'est pas mort. Hein. Non, on l'a vu au Super U de Saint-Herblain, là, ce matin... Rayon sans gluten. Et la base, hein, bien sûr, la queen des rumeurs, hein, la panne pizza, évidemment. Le 11 septembre n'a jamais existé. Non, bah ça, oui. Ça, c'est sûr, on me l'a expliqué. Le 11 septembre, c'est juste un pot de départ qui a mal tourné à 9h du mat. Alors, puisqu'on est en bonne connivence intellectuelle, ma petite dame, je rajoute la mienne, hein, comme ça vous pourrez la diffuser auprès de tous vos amis sympathiques. Brigitte Macron n'existe pas, voilà, non. Non, c'est un drone qu'on déboîte, alors on enlève les bras, les jambes, ça monte à 20 mètres et ça permet de faire des photos de toute l'île de France pour les services secrets israéliens, voilà. Hein. Je vous laisse, ce soir je dors chez Raël dans le Puy de Dôme, j'ai un peu de route, sinon je serais vraiment resté discuter avec vous.
Place aux nouvelles stars du rire.
Amandine Lourdel.
Parfois je suis invitée à des dîners. Vous savez, des dîners chez des gens bien, des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui défiscalisent. Dernier dîner où je vais, on arrive, et là il y a une des invitées qui dit « Ah, ils sont sympas tes fauteuils !» C'est qui ? Moi je me dis, elle est complètement con celle-là. Elle demande des nouvelles du mobilier. Et l'autre, elle lui répond « Ah bah figure-toi, c'est marrant parce que cela, c'est le père et le fils. » De quoi elle parle ? Elle fait un élevage de meubles ? Bon, en fait, j'y étais pas du tout. Elle parlait des designers des chaises. Alors elle m'a dit « Non, je connaissais pas. » Elle m'a dit « Tu connais ? » Alors j'ai dit, comme on dit tous quand on connaît pas, j'ai dit « Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. » De nom. J'ai dit « Mais moi, je préfère mes chaises chez moi. Je sais pas si tu connais, c'est un designer italien. C'est Giffy. » Et là, la fille chez qui on était montre de grandes lampes qu'elle avait derrière elle. qui ressemblaient à des sortes de grands cactus blancs avec des trous dedans. Et là, j'entends qu'elle dit « Ouais, bah la petite, c'est 700 et la grande, c'est 1000. » Alors, je dis « Hein ?» Elle me dit « Bah ouais, c'est les prix. » Je lui dis « Oui, je me doute bien que c'est pas la date de création. » Elle me dit « Bah quoi, tu trouves que c'est beaucoup ?» Je lui dis « Bah ouais, je sais pas, 1700 balles, c'est quand même le budget annuel des éclairages de Noël de la ville de Montluçon. » Elle me dit « Bah ouais, mais une lampe, c'est quoi? C'est 300 balles minimum ?» Je lui dis « Bah non. Une lampe, c'est 30 balles maximum. » Je lui dis « Attends, je vais dire 300 euros, tu peux quand même avoir un enfant au Vietnam avec ça. » Bah attends, tu lui mets une petite bougie chauffe-plat dans chaque main, ça te fait un très beau luminaire maison du monde. Alors après, on est passé à table. Bien entendu, il m'avait collé à côté du seul célibataire, Benoît, que j'ai très rapidement renommé Benoît mon ennui dans l'alcool. Benoît, c'est le genre de mec, il est tellement chiant, il a fait son Erasmus en Suisse. Et alors, pour Benoît, tous les prétextes sont bons pour te réciter son CV. Alors que toi, t'as juste demandé la salade. J'ai dit, excuse-moi Benoît, tu peux me passer le... Ouais, carrément, ouais, alors moi j'ai fait HEC. Et après, j'ai enchaîné direct avec un MBA à Chicago. Là, je reviens de 6 mois au Qatar, tu sais ce qui m'a le plus manqué? Non, je sais pas, les droits de l'homme. Il me dit, non, ça, ça va, ça va. Il me dit, non, ce qui m'a vraiment manqué, c'est la bouffe, la gastronomie française. À un moment, Benoît, il me dit, tu vois, Amandine, bon, bah, moi, je suis de droite. Bon, bah, toi, j'imagine que t'es de gauche, comme t'es comédienne. Bien joué, Sherlock. Bon, bah, ça nous empêche pas de nous parler, c'est ça qui est beau. J'ai dit, non, Benoît, il n'y a que toi qui parles. Moi, j'attends toujours la salade. Ah, heureusement, j'ai arrêté de lui parler parce que le dîner s'est transformé en un débat autour d'une question sociétale brûlante. Est-ce que le paddle va finir par remplacer le squash? Alors là, pour moi, c'est le seuil de décompression de la tolérance dans une soirée. T'sais, après, je peux plus. C'est à ce moment-là, dans un dîner, qu'il faut proposer un Uno. Ou une partout sous MDMA, mais faut agir, tu vois, faut faire quelque chose. Hein. Non, en plus, j'aime pas trop ce genre de dîner parce que c'est des gens que t'as pas vu depuis longtemps, que tu vois pas souvent et qui te posent toujours les questions que t'as pas envie qu'on te pose. Récemment, j'ai croisé un pote de mon père que j'avais pas vu depuis 15 ans, il me les a toutes posées les questions. Tu sais, il était là, t'es marié? T'as des enfants? Tu veux des enfants? Pourquoi t'en vends? T'as bien un petit fiancé au moins? Alors moi, j'ai répondu non à tout. Et là, vraiment, j'ai senti l'ampoule lesbienne s'allumer dans son cerveau. Ah bon, moi, j'étais de bonne humeur, j'avais envie de lui faire plaisir, et comme j'imaginais bien l'image qui devait se faire des lesbiennes, bah, pour aller dans son sens, je me suis gratté les couilles, puis j'ai craché par terre. Je lui ai dit, bah, je te laisse, je vais chercher ma moto. On va à la salle avec les copines, là, on va pousser un peu de fonte. Puis je lui ai mis un petit crochet dans le foie en partant, comme ça.
There'll be goals on. soir, FG Mix invite Fluctuaire Paris by FG Chic. Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? soir, FG Mix invite Fluctuaire Paris by FG Chic.
entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Et vous savez qu'on ne laisse rien au détail sur cette antenne. Le PSG rentrera peut-être dans l'histoire le 31 mai. Et dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Entrée dans l'histoire. Laurent Deutsch, bonne soirée à tous.
Dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch, la rediffusion.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, on s'envole. On part à la conquête du ciel. On va traverser les nuages. Car je vais vous parler d'une femme exceptionnelle, une pionnière. Je vais vous parler d'une légende de l'aviation. Cette femme, c'est Amelia Earhart. Une femme libre et intrépide, qui a été l'une des premières pilotes de l'histoire et qui a pulvérisé tous les records féminins de son temps. Elle a été un modèle pour des millions d'autres femmes, à une époque où l'on n'imaginait pas qu'elle puisse égaler et encore moins surpasser les hommes dans un domaine aussi périlleux que celui de l'aviation. Mais si Amelia est restée célèbre, c'est aussi à cause de sa disparition qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a suscité bien des théories. Volatilisée au large du Pacifique en 1937, dans des circonstances non élucidées, elle a laissé planer derrière elle un mystère qui n'en finit pas de nous interroger. Alors, prêts à décoller? Prêts à éprouver le frisson de la liberté? Eh bien, suivez-moi dans l'histoire fascinante d'Amelia Earhart, la plus audacieuse et la plus incroyable des aviatrices. Nous sommes le 2 juillet 1937, sur le petit aérodrome de Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, non loin de l'Australie. La célèbre aviatrice Amelia Earhart et son copilote, Fred Noonan, décollent dans les premières lueurs de l'aube en direction d'Hawaï. Ils ont quitté la Floride il y a plus d'un mois pour une aventure insensée, faire le tour du monde en avion. À bord de leur bimoteur Electra, ils ont déjà parcouru 35 000 km et vont bientôt boucler leur périple. Mais avant d'arriver à Honolulu, ils vont devoir faire une petite pause, une dernière escale pour se ravitailler en carburant. Ils vont donc être obligés d'atterrir sur l'île de Howland, un tout petit atoll inhabité, perdu au beau milieu du Pacifique. Et pour la première fois, Fred paraît inquiet. Amelia le rassure. Ils ont chargé à bord de leur appareil 4000 litres d'essence. Et on leur a préparé une petite piste rudimentaire sur Howland. Alors, ok, ils vont devoir se poser sur le sable, entre deux cocotiers. Ça va être sûrement un petit peu rock'n'roll, mais tout va bien se passer. Et en plus, les gardes-côtes américains ont envoyé sur zone un navire muni d'un équipement radio pour les guider, au cas où. Fred, t'as aucune raison de t'inquiéter. Mais derrière son air calme, Amelia aussi n'est pas très à l'aise. Elle sait très bien que ce dernier trajet entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Hawaï est le plus long et surtout le plus dangereux de leur voyage. Il va leur falloir parcourir plus de 4000 km au-dessus de l'océan sans aucun moyen de se poser en cas d'urgence. Alors, s'ils venaient à rater la minuscule île d'Howland, ce serait un désastre. 19 heures après leur départ de l'AE, Amelia et Fred commencent sérieusement à angoisser. Ils n'ont toujours pas atteint l'îlot. À 7h42, Amelia envoie un message radio au navire qui est censé se trouver près de l'atoll. Nous devons être au-dessus de vous, mais on ne vous voit pas. Le carburant commence à baisser. À 8h, elle annonce aux gardes-côtes qu'ils tournent en rond et n'arrivent toujours pas à visualiser l'atoll, ni même à localiser leur bateau. Nous n'avons plus beaucoup d'autonomie et aucun endroit où atterrir. À 8h43, elle adresse un dernier message. Nous volons à 10 000 pieds, mais nous manquons d'essence. Ensuite, silence radio. Les deux aviateurs ne donneront plus aucun signe de vie. Une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation va commencer. Notre petite Amelia Marie pousse son premier cri le 24 juillet 1897 à Atchison, au Kansas, un état plutôt conservateur où l'on ne badine ni avec la loi, ni avec les traditions. Edwin est juriste et son grand-père, le vénérable juge Otis, est un ancien magistrat fédéral. Tout laisse supposer que la jeune Amelia va être élevée selon les codes de la bonne morale en vigueur. Eh ben pas du tout. En grandissant, son père et son grand-père lui laissent faire tout ce qui lui passe par la tête. Quant à sa maman, Amy, elle l'habille avec des pantalons et lui explique que les filles peuvent faire la même chose que les garçons. Il faut dire qu'Amy n'est pas une mère ordinaire. En 1890, en effet, elle a été la première femme à gravir les 4301 mètres du pic Pikes dans les montagnes rocheuses. Amelia, que l'on surnomme Millie, a donc de qui tenir. Dès son plus jeune âge, elle développe une passion pour les activités les plus téméraires. Au lieu de jouer à la poupée ou à la dinette, elle préfère grimper aux arbres. Oui, notre Amelia n'est pas seulement une ravissante petite fille, c'est surtout un sacré casse-cou. Une tête brûlée qui ne manque pas d'intelligence. C'est aussi une très bonne élève. À la fin du lycée, elle poursuit des études secondaires à l'université. L'avenir lui appartient, même si elle ne sait pas encore de quoi il sera fait. Lorsque les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale en 1917, notre jeune femme décide d'aider les soldats qui reviennent du front. Elle s'engage comme aide-soignante auprès de la Croix-Rouge, puis comme infirmière dans un hôpital militaire. Elle a tout juste 20 ans. Cette expérience l'incite ensuite à faire des études de médecine. Mais au bout d'une année, elle abandonne son cursus. Amelia rêve d'autre chose. Et c'est en 1920 que le destin de cette jeune intrépide va basculer. En effet, un jour, son père l'emmène assister à un spectacle aérien sur un petit aérodrome du coin. Et quand l'un des pilotes lui propose un baptême de l'air, elle n'hésite pas une seconde. Ce petit tour en avion va changer le cours de son existence. 10 minutes plus tard, lorsqu'elle repose les pieds sur terre, elle n'a plus qu'une idée en tête. Voler de nouveau, mais voler de ses propres ailes. Elle prend illico des leçons de pilotage et un an plus tard, toutes ses économies passent dans l'achat de son propre appareil. Elle s'offre un petit biplan d'à peine 60 chevaux, de couleur jaune poussin, qu'elle surnomme, non sans humour, le Canary. Et avec son Canary, la grande aventure de sa vie va pouvoir commencer. L'année suivante, le 22 octobre 1922, à bord de son Canary, elle réalise à 25 ans sa première prouesse, en montant à 4300 mètres d'altitude. Ce n'est pas encore un record, mais c'est déjà une incroyable performance. Et cet exploit va d'ailleurs lui permettre de se faire remarquer.
Come fly with me, let's fly away.
Ainsi, 6 ans plus tard, en 1928, l'éditeur George Putnam a l'idée d'organiser une traversée de l'Atlantique en avion et d'en publier le récit pour ses lecteurs. Ce tour de force a déjà été accompli l'année précédente par le célèbre Charles Lindbergh, mais Putnam pense qu'on pourrait réitérer l'exploit avec une femme cette fois. Il pense d'abord à 2 aviatrices plus expérimentées, plus chevronnées qu'Amelia. Mais on lui vante quand même les mérites et le courage de la jeune femme et surtout son charme renversant. Ça peut aider ça pour les ventes. Et du coup, c'est surtout le charisme, pour ne pas dire le physique d'Amelia, très avantageux, qui va faire d'elle la candidate idéale. En gros, une pin-up dans les airs. Notre jeune femme est donc invitée à monter à bord d'un Fokker F7 pour survoler l'immense océan qui sépare l'Amérique de l'Europe. Mais sa déception est de taille quand elle réalise qu'elle ne sera pas toute seule dans l'avion, et encore moins aux commandes. Et non, en fait, elle a été invitée en tant que simple passagère. En pin-up, c'est un homme qui pilotera l'engin. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Le 17 juin 1928, leur avion décolle de Terre-Neuve au Canada et il atterrit 20h et 40 minutes plus tard au Pays de Galles. L'événement fait sensation. Et dès son arrivée, comme Putnam l'avait prévu, Amelia Earhart reçoit un accueil triomphal. La foule ignore complètement le pilote et c'est elle qu'on porte en héroïne. Amelia est flattée, mais le goût de cette victoire lui reste en travers de la gorge. Dégoûtée, elle lâche même aux journalistes.
Je n'étais qu'un bagage, vous savez, un peu comme un sac de pommes de terre. Un joli sac de pommes de terre.
Mais quoi qu'il en soit, sa popularité est lancée. La presse la surnomme aussitôt Lady Lindy, en rapport avec Lindbergh. Et ce, pas seulement parce qu'ils ont fait tous les deux la traversée de l'Atlantique, mais parce qu'ils ont un air de ressemblance assez étonnant. Ils sont tous les deux blonds, aux yeux bleus, grands et élancés. On les dirait presque frères et sœurs. Mais ce surnom, il plaît pas du tout à Amélia. Sa fierté en prend un coup. Elle ne veut pas être la pâle copie du célèbre Lindbergh. Elle veut exister par elle-même. Et surtout, elle veut montrer que les femmes sont capables de faire aussi bien que les hommes. Pas besoin d'un homme pour traverser l'Atlantique en avion. Et elle va pas tarder à le prouver. Cette même année, elle réalise la première traversée en solitaire du continent américain, de New York à Los Angeles. Puis, elle établit un nouveau record de vitesse féminin en volant à 291 km/h. Mais l'exploit qui va définitivement la consacrer comme une très grande aviatrice va avoir lieu en 1932. À l'âge de 35 ans, elle fait pour la seconde fois cette fameuse traversée de l'Atlantique qui l'avait rendue célèbre, mais en solo, cette fois-ci. Malgré les rafales de vent, malgré les tempêtes de givre, les problèmes mécaniques, elle réussit à survoler l'océan sans aucun instrument de navigation, sans faire d'escale et surtout sans ravitaillement en vol. Et le tout en 15 heures et 56 minutes. C'est un exploit féminin sans précédent. Bon, entre deux envolées, notre belle Amélia n'a pas oublié de tomber amoureuse. Elle a épousé son éditeur, George Putnam, tout en posant une condition à leur union. Pas question qu'elle renonce à sa liberté et encore moins à l'aviation. Une condition que son mari accepte, car il sait très bien qu'on ne retient pas les oiseaux en cage. Mois après mois, année après année, Amélia poursuit donc son rêve, cherchant à voler toujours plus vite, toujours plus haut et toujours plus loin. Sa popularité est à son apogée. Chacun de ses exploits fait la une des journaux. Elle est devenue, en l'espace de 7 ans, la figure féminine la plus célèbre de l'aviation. Mais Amélia ne court pas après la gloire. Non, ce qu'elle veut, elle, c'est être une source d'inspiration. Pour elle, les femmes, au même titre que les hommes, doivent toujours tenter l'impossible. À son mari inquiet, elle écrit un jour
« Sache que je suis tout à fait consciente des risques, mais les femmes doivent oser, comme les hommes l'ont fait. Et quand elles échouent, leur échec doit encourager d'autres femmes à les imiter. »
En 1937, alors qu'Amélia approche la quarantaine, elle décide de relever un nouveau défi, faire le tour du monde en avion. Quelques hommes l'ont déjà fait, mais jamais aucune femme. Elle demande alors à Fred Noonan, un pilote expérimenté de 44 ans, de l'accompagner dans cette folle aventure. Fred est emballé et nos deux aviateurs établissent ensemble leur plan de vol. Comme deux Indiana Jones, ils dessinent un trait rouge sur la carte du monde. Un long trait qui représente le trajet qu'ils vont devoir parcourir. 47 000 kilomètres. Ainsi, le 2 juin 1937, leur avion Electra quitte la Floride pour rejoindre Hawaï. Au début, tout se passe bien. Amélia et Fred font une escale au Venezuela, au Suriname, puis au Brésil. Ils traversent sans problème l'Afrique et le Moyen-Orient, puis ils passent au-dessus de l'Inde et longent l'Indonésie. Le 29 juin, ils arrivent au nord de l'Australie et atterrissent à Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur les 47 000 kilomètres à parcourir, ils en ont déjà fait 35 000. Ils touchent presque au but. Après avoir refait le plein, ils reprennent les airs pour entamer l'avant-dernier tronçon de leur itinéraire, le tronçon le plus périlleux. 4 000 kilomètres d'océan à traverser, avec, comme seule escale possible, l'île de Howland, un confetti posé au beau milieu du Pacifique dont je vous ai parlé au début de notre aventure. Leur avion a donc redécollé de Lae le 2 juillet 1937. Mais comme je vous l'ai raconté en début d'histoire, après 19 heures de vol, Amélia et Fred n'avaient toujours pas trouvé ce petit bout de terre dont dépendait leur salut. Et à 8 heures du matin, ils n'ont plus donné de nouvelles. Alors, à 10h40, l'alerte est lancée. Les autorités américaines demandent aux navires des gardes-côtes de partir à leur recherche. Sans succès. Dans les jours suivants, on envoie un cuirassé et trois hydravions en reconnaissance. Toujours rien. L'Electra s'est volatilisée. Durant 4 mois, le gouvernement du président Roosevelt va mobiliser une dizaine de navires et une cinquantaine d'avions. Mais là encore, aucune trace de l'appareil. L'US Navy en conclut que l'Electra, à court de carburant, a dû plonger dans l'océan et disparaître dans les profondeurs du Pacifique. Le 5 janvier 1939, soit 2 ans et demi après leur disparition, Amelia Earhart et Fred Noonan sont officiellement déclarés morts. Mais l'histoire est loin d'être terminée, les amis. Car une autre hypothèse va émerger au cours des années suivantes. En effet, en 1940, les Britanniques découvrent les restes d'un squelette humain sur Nikumaroro, un minuscule atoll des îles Phoenix, situé à 650 km de l'île d'Auland.
Il nous reste un petit quart d'heure, mais je voulais accueillir sur l'antenne d'Europe 1, dans cette libre antenne, Maria. Bonsoir Maria.
Bonsoir Roland.
Alors merci Maria, mais non, mais ce que vous avez vécu avec votre fille, ça continue et vraiment pas bien. Vous êtes maman d'une fille handicapée. Vous aviez l'habitude de voyager avec votre fille. Et c'est ce qui faisait un peu le plaisir un peu de votre vie à votre fille surtout. Et puis vous partiez tous les ans à Madrid et là en prenant en empruntant la compagnie Iberia, s'est avéré que évidemment votre fille a besoin d'une assistance, on doit venir vous chercher, on doit venir chercher votre fille et puis l'accompagner à l'avion. Et là, vous avez attendu en vain, vous avez raté l'avion et vous auriez dû payer, si vous aviez voulu partir, 250 euros. Voilà. Et en plus, on vous a laissé seul. Enfin, ça a été un petit peu l'horreur et vous vous débattez, j'ai l'impression, aujourd'hui pour obtenir gain de cause face à une compagnie qui, visiblement, a mal agi, en tout cas, ne vous a pas assisté comme il le fallait.
Voilà, exactement. Surtout qu'en plus, les personnes ont même été désagréables. Parce que quand j'ai dit, mais enfin, ça fait 2 heures qu'on est là, on a demandé une assistance et comment est-ce possible ? On m'a dit, ah mais de toute façon, la politique de la compagnie, c'est 250 euros pour le prochain vol.
C'est double peine, non seulement
notre avion part sous nos yeux, mais en plus, il faudrait que je paye. Alors faire une réclamation là-haut. Alors on a dû faire tout l'aéroport de nouveau, repasser les contrôles, etc. pour aller au guichet d'Iberia, où là on m'a dit, il n'y a pas de place dans le vol de 2h30, pas de place dans celui de 3h30, 4h30, 5h30, il reste 6h30 si vous voulez. Alors bon, j'ai dit oui, de toute façon on est bien obligé d'accepter. Alors ça a été assez terrible parce que bon...
Vous n'avez rien repayé quand même?
Ah non, j'ai rien payé, non. Mmh. Mais en payant, j'aurais eu une place dans le vol de 2h30, vous voyez,
oui, donc
une heure après.
Donc on a fait attendre votre fille toute une journée, alors qu'ils étaient à l'origine du ratage du vol. J'ai cru comprendre que vous aviez fait une réclamation, évidemment écrite auprès de la compagnie aérienne.
Oui, alors j'ai écrit au chef d'escale, je ne sais pas si une amie qui m'a conseillé ça, qui était en tête de
l'air. Non, au chef d'escale, si vous aviez eu un problème dans l'avion, mais je pense qu'il fallait écrire tout simplement à la compagnie, mais je pense qu'ils ont dû quand même, ils ont dû normalement transmettre le... Parce que c'est la première étape, c'est vraiment la première étape, c'est d'écrire auprès de la compagnie aérienne, c'est ce qu'on appelle un peu le recours amiable, ça il faut le faire. Vous avez voyagé quand d'ailleurs? C'était quand le voyage?
C'était fin décembre.
Ouais, parce qu'il faut le faire dans un délai un peu raisonnable, généralement sous 2 mois, mais bon, vous avez déjà quand même envoyé un courrier. Après, vous avez ce qu'on appelle... La Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, qui est dans tous les aéroports, elle peut être saisie justement pour faire respecter les obligations des compagnies vis-à-vis des passagers justement à mobilité réduite, parce qu'il y a ce qu'on appelle un règlement européen qui impose aux compagnies aériennes et aux aéroports de garantir l'assistance gratuite aux passagers handicapés ou à mobilité réduite. Et si elle ne le fait pas, la compagnie est directement fautive. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Là, vous avez passé, votre préjudice, c'est un préjudice moral d'abord, parce qu'on vous a trimballé, d'avoir raté votre avion. Et puis l'autre préjudice, c'est d'avoir attendu comme ça toute une journée en vous demandant soit de payer si vous vouliez monter dans l'avion, soit d'attendre la place dans un avion. Alors, il y a de la place si on paye, il n'y en a pas si c'est quand même fort de café. Donc ça...
Et d'ailleurs, une fois dans l'avion, l'hôtesse, j'ai raconté notre mésaventure à l'hôtesse, elle m'a dit, ah bon, mais je ne comprends pas, parce qu'il y avait plein d'autres vols et il y avait des places. Donc vous voyez...
C'est dingue qu'ils aient eu autant de... Après, vous avez aussi ce qu'on appelle le médiateur du tourisme et du voyage, le MTV. Là aussi, c'est gratuit, c'est rapide, et puis ça peut également... comme c'est des compagnies aériennes qui volent, qui ont besoin de voler à partir de Paris, elles sont obligées de se soumettre à la réglementation, d'autant plus je vous dis qu'il y a une réglementation européenne. Donc, donc a priori, vous pourriez demander une réparation sous forme peut-être de billets pour pouvoir voyager, repartir une autre fois, parce que du coup, vous disiez, d'après ce que j'ai cru comprendre dans votre message, vous disiez que vous aviez peur aujourd'hui de voyager.
Oui, ça m'a complètement... Je suis restée complètement traumatisée. Comme un traumatisme, parce qu'on a vraiment souffert. Hein. Je peux vous dire, bon là, j'ai pas le temps de donner des détails, mais ça a été une journée mais d'enfer. Hein. Et en plus, à Paris, on avait donc le transport PAM, c'est pour les personnes handicapées qui nous attendaient. Donc évidemment, ils sont partis, on a eu des pénalités. Mmh. Et on a dû réserver ensuite un taxi à mes frais. Enfin, c'est quand même très cher. Et on est rentré, il était presque minuit quand on est rentré à la maison. Le lendemain, ma fille devait se lever tôt pour aller à son centre.
Parce que enfin, c'était un vol. Vous étiez en Espagne quand vous reveniez de Madrid ?
Oui, à Madrid.
C'était à l'aéroport de Madrid. D'accord, ok.
On rentrait sur Paris. Voilà. D'accord, c'était le vol retour. Oui.
D'accord, ok. Oui, donc ça a été une journée cauchemardesque.
Cauchemardesque. En plus, moi, je ne peux pas soulever ma fille sans avoir un élévateur, comme j'ai chez moi. Ce qui fait qu'elle n'avait pas fait pipi depuis le matin. Enfin bon, c'est des détails un petit peu privés, mais elle avait une protection. Mais enfin, je veux dire, c'est pas agréable. Hein. On a eu des frais, il a fallu manger, en plus avec le taxi, etc. Mine de rien.
Depuis décembre, vous n'avez pas revoyagé, du coup ?
Non, et je n'ai même pas pris de billet pour cet été, tellement j'ai été traumatisée. J'arrivais même pas à en parler, hein. C'est pour ça que j'ai écrit 2 mois plus tard, parce que j'étais complètement comme un traumatisme. Oui, c'est idiot, bon, on va dire des fois il y a des choses plus graves dans la vie, c'est vrai, mais bon, c'est très compliqué. Hein. Quand on est comme ça, comme moi seule, avec une jeune femme,
vous n'avez pas le papa n'est pas présent du tout, Maria ?
Non, le papa, ça fait des années qu'il ne la voit plus. Je suis divorcée et le papa, il est en Espagne d'ailleurs, mais il ne prend plus de nouvelles, on ne le voit plus. C'est moi qui m'occupe toute seule d'elle.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'on a beaucoup.
Et vous n'avez pas d'autres enfants, Maria ?
Si, j'ai 2 garçons.
Ah.
J'ai un grand garçon.
Et vous recevez un petit peu d'aide de vos fils ?
Quand on est sur Paris, oui. Ils aiment beaucoup leur sœur et... Surtout le plus jeune m'aide beaucoup, donc oui, sur Paris, oui. Mais pour voyager comme ça, je suis seule avec elle. Hein.
Votre fils est un handicap physique ?
Ma fille ?
Oui.
Oui, c'est un handicap physique et un peu mental aussi. Elle comprend, elle parle un petit peu, mais elle a quand même des difficultés. Elle est restée un peu enfant, on va dire, dans sa tête.
Oui, donc elle n'a pas d'activité, elle ne peut pas travailler dans...
Non, elle va dans un centre, dans un CAT. deux jours, elle rentre le soir à la maison.
Ou elle travaille un petit peu ?
Non, elle ne travaille pas. Ils font des activités en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Elle fait du théâtre, des coloriages, des choses pratiquement comme un enfant.
Et vous travaillez, Maria ?
Non, je suis retraitée maintenant.
D'accord.
Mais j'ai travaillé, je me suis toujours occupée d'elle en même temps. Hein.
Donc votre vie, vous l'avez consacrée à votre fille quand même ?
Ah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait, tous les week-ends je la sors, on fait plein de choses.
En tout cas, il faut que vous obteniez gain de cause. Donc, si vous pouviez prendre quelques notes là sur ce que je vous ai dit, à savoir la direction, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Vous envoyez le courrier que vous aviez envoyé à la compagnie, même si c'était au directeur d'escale, au chef d'escale, comme vous avez dit votre ami, mais c'est pas grave. Vous expliquez très bien ce qui vous est arrivé. Vous écrivez également, si vous n'avez pas de réponse à DGAC, mais vous en aurez une, moi j'en suis certain. Mm-hmm. Ils connaissent parfaitement la réglementation. Vous envoyez, votre fille a certainement une carte d'handicapé, non ?
Oui, bien sûr, bon, oui.
Vous envoyez
80%.
Vous avez gardé vos billets, vous avez gardé tout ça ?
Oui, j'ai tout gardé.
Le premier billet que vous aviez et le deuxième qu'on vous a donné ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Voilà, et vous dites qu'aujourd'hui, que ça a été... que c'est un préjudice moral, parce que vous avez passé une journée, vous faites état du taxi que vous avez dû prendre, tous les frais que vous avez dû engager, préjudice matériel également. Et puis, parce que je pense que si vous obtenez au moins réparation, c'est qu'on aura pris, en compte ce que vous avez vécu. Ça va vous redonner de la force parce que c'est, il faut
oui,
vous,
c'est
parce que parce qu'il faut pour sortir d'une sorte d'injustice, il faut qu'il y ait une réparation.
Mm-hmm.
Et cette D'accord. réparation, elle est nécessaire. Donc je crois qu'il faut que vous alliez au bout maintenant, Maria. Il faut que vous obteniez. Donc je vous dis la DGAC. Vous avez également la médiation. Le médiateur du tourisme et du voyage.
D'accord, ça sera très utile. Hein. Je vous remercie beaucoup.
Voilà, n'hésitez
pour
pas.
Pour ces informations.
Voilà, n'hésitez pas. Et puis, il faut peut-être essayer de revoyager si vous pouvez, parce qu'il ne faut pas. Votre fils, elle lui fait plaisir. C'est vous aussi,
bah
c'est
oui,
important.
C'est ça, ouais.
Vous n'avez pas non plus, en restant toujours à vous occuper, c'est évidemment l'amour qui vous guide, l'amour, l'instinct maternel et l'amour qui vous guide. Mais. C'est aussi important que vous preniez un peu de bon temps pour vous, et ce voyage aussi, c'est l'occasion d'avoir du bon temps, même si vous en avez gardé un piètre souvenir la dernière fois.
Voilà, je vous remercie.
Et vous prenez toujours cette compagnie Iberia ?
Non, ça dépend, on a déjà pris Welling, on a pris plusieurs compagnies différentes. Mais c'est la première fois où on a...
Transavia le fait aussi, là. Non ? La compagnie d'Air France,
Transavia aussi, oui. Oui, jusque-là, on était... satisfaite, hein. Il y a pas de... Là, oui. C'était vraiment
incroyable. Ça peut être la faute à pas de chance aussi, Maria. Il faut pouvoir... Parce que j'ai vu aussi que vous aviez un problème avec l'ascenseur de chez vous, du coup.
Oui, actuellement. Ça fait un mois et demi qu'on n'a plus d'ascenseur. Alors ça aussi, c'est un truc terrible. Mais heureusement, il existe une compagnie qui s'appelle SAMV. Et là, je le dis aussi pour les auditeurs qui pourraient être intéressés, qui viennent avec un petit fauteuil, c'est comme un petit fauteuil électrique, et qui monte et descend les escaliers.
Ah,
donc, ils viennent tous les matins la descendre et le soir la remonter.
Ah, formidable.
Et j'avais vu ça il y a 5 ans.
Et alors, c'est pris en charge par la Sécurité sociale ?
Par le bailleur, c'est-à-dire qu'ils envoient la facture au bailleur.
Très bien.
Et c'est vraiment formidable. Hein.
Comment ça s'appelle ?
SANV.
SANV,
vous regardez sur Internet, c'est quelqu'un qui s'appelle Fouad Ben Ahmed qui a créé ça il y a 5 ans et qui est vraiment quelqu'un de formidable. Hein. C'est vraiment, heureusement qu'ils existent. Hein. Sinon, ma fille serait bloquée à la maison un mois et demi sans sortir.
Bah oui, elle pourrait pas aller à son centre.
Voilà. Donc l'ascenseur, en principe, ils nous disent qu'on l'aura vendredi, donc je croise les doigts parce que pour moi, c'est très difficile aussi. Hein.
Et vous, comment vous faites pour descendre les 6 étages ?
Eh bien, je descends à pied, je descends, je remonte. Je me suis fait une tendinite. Voilà. Mais au moins, elle peut descendre dans son petit fauteuil. Alors, marche par marche, hein, on met 10 minutes à descendre.
Ouais, enfin, bon. Et dites-moi, vous avez des aides quand même ? Vous avez des aidants qui viennent vous aider chez vous ?
J'ai une personne qui vient 2 heures le matin pour m'aider à l'habiller, à la préparer, etc. D'accord. Voilà, mais c'est tout. Mais pas le week-end. Hein. Le week-end, je suis toute seule.
Et vos fils viennent un peu, quand même ?
Ah oui, ils viennent.
Bon. Bah écoutez, je sais que la vie n'est pas toujours facile et simple, mais en tout cas, ces petits voyages que vous faisiez, c'était quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix voir comment on pouvait vous aider, Maria.
C'est gentil, hein. Merci beaucoup. Vraiment, ça va bien m'aider.
Voilà, n'hésitez pas, le DGAC est médiateur des voyages.
D'accord. Merci beaucoup.
Allez, rappelez-nous pour nous dire si vous avez pu avoir gain de cause et puis revoyager surtout. Merci pour votre appel, Maria.
La libre
antenne va s'achever. Il est bientôt 1h du matin. Vous allez retrouver Marlène Duret qui va vous accompagner cette nuit. Demain, vous retrouverez évidemment Olivier Delacroix. Et puis ce week-end, vous retrouverez Valérie Darmon et toute son équipe. Vous pouvez d'ores et déjà laisser des messages pour Olivier demain au 01 80 20 39 21. Florian et Julia ont préparé cette émission. Laurent Pelé l'a réalisée. Je les remercie. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner dans cette libre antenne de ce mercredi. Je vous retrouverai, je crois, cet été, probablement au mois de juillet. Je serai avec vous la semaine. Et donc, j'aurai plaisir également à entendre tous vos messages. Et puis n'hésitez pas, on avait eu d'autres appels et d'autres intervenants qui devaient intervenir ce soir. Qu'on n'a pas réussi à joindre, comme Arcadie, peut-être qu'il nous écoute. Arcadie, il avait une très belle histoire à nous raconter. C'est un véritable conte de Noël, quasiment.